BW. Vue d'Allemagne.
Comment continuer à apprendre lorsque les écoles et universités sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus? Eh bien, c'est une aubaine pour les plateformes d'apprentissage en ligne qui booment en Afrique. Le Covid-19 a aussi des répercussions sur les conditions de vie de nombreux réfugiés. Dans la deuxième partie de ce magazine, reportage en Grèce dans un camp autogéré par des réfugiés kurdes. C'est Anne Letouzé pour vous présenter ce troisième numéro de Vue d'Allemagne, réalisé en mode confinement. Willkommen et bienvenue. Depuis l'arrivée du coronavirus et l'injonction quasi universelle de rester chez soi, une multitude de plateformes ont vu leur fréquentation exploser. Skype, Zoom, Houseparty, ClickMeeting, Teams et bien sûr WhatsApp pour n'en citer que quelques-unes. La plupart servent aux amis et aux familles pour maintenir un lien malgré la séparation ou aux entreprises pour tenir des réunions de travail interminables en visioconférence. D'autres sont conçues comme des salles de classe virtuelles avec un professeur muni d'une caméra et des élèves qui peuvent suivre à distance les cours dispensés sur leur ordinateur ou tout simplement sur leur smartphone. En réalité, le monde n'a pas attendu le coronavirus pour découvrir l'apprentissage en ligne et accéder à un réservoir inépuisable de connaissances. Le e-learning ou l'apprentissage en ligne est en pleine expansion et il devient un marché intéressant pour les jeunes entrepreneurs qu'il aborde avec une bonne dose de créativité pour combler les trous du système d'éducation de leur pays d'origine. C'est le cas d'Arona Gay et Massamba Thiam au Sénégal. Ils ont fondé il y a 2 ans Afribord Education, une plateforme d'apprentissage conçue pour les écoles et les universités. Les cours sont donc dispensés dans des classes virtuelles. En ce moment, il y a d'ailleurs un programme spécial sur la prévention contre le coronavirus et les élèves peuvent échanger dans des espaces de discussion et même passer des épreuves en ligne. Le logiciel d'apprentissage a été développé à Dakar en coopération avec une équipe basée au Canada. C'est d'ailleurs là-bas que les deux fondateurs d'Afribord ont découvert les avantages de l'apprentissage en ligne. De retour dans leur pays d'origine, ils ont décidé de se lancer, comme l'explique Massamba Thiam.
Quand nous sommes rentrés au Sénégal en 2017, nous avons interrogé plusieurs élèves et étudiants. Ils nous ont dit qu'ils avaient de gros problèmes avec l'échange de contenu et les classes surpeuplées.
Massamba Thiam et Arona Gay ont conçu une application simple pour motiver les jeunes apprenants, y compris dans les régions les plus reculées, et ce grâce à une nouvelle application de Google qui fonctionne sans connexion Internet. Les élèves n'ont qu'à se connecter et quand ils coupent leurs données, ils peuvent quand même continuer à naviguer et à travailler. Les deux Sénégalais disent avoir développé cette technologie de manière à l'adapter aux conditions en Afrique. Chaque utilisateur paye une modeste redevance pour utiliser ce service. L'État sénégalais a aussi soutenu financièrement la petite entreprise d'e-learning à ses débuts dans le cadre d'un programme d'aide aux startups. Ce coup de pouce financier n'étonne pas Rebecca Strohmeier. Le Sénégal fait partie des pays qui sont à la pointe de l'apprentissage en ligne, explique-t-elle.
Kenya, Ghana, Sénégal.
Le Kenya, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Rwanda sont leaders en matière d'e-learning. Cela est dû au développement économique, au système d'éducation, à l'esprit d'entreprise, à la créativité et à l'intelligence des jeunes dans ces pays, mais c'est aussi parce que les gouvernements soutiennent les infrastructures et les solutions technologiques.
Rebecca Strohmeier travaille chez ICWE, Integrated Communications Worldwide Events, une société internationale de communication basée à Berlin. Elle est cofondatrice de la conférence e-learning Africa, qui a lieu tous les ans depuis 2006 sur le continent africain. Dans son rapport 2019 sur l'e-learning, Rebecca Strohmeier a recensé 200 startups innovantes basées en Afrique. 30 autres sont venues s'y ajouter depuis et la plupart ont du succès. C'est le cas d'Eneza au Kenya, une entreprise active aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire. Elle propose des cours de soutien et du matériel d'apprentissage pour les élèves de la primaire et du collège. Et puis il y a aussi Ubongo en Tanzanie qui travaille avec des médias éducatifs, ce qu'on appelle « edutainment ». Elle propose des jeux éducatifs qui renforcent les compétences d'apprentissage. Au Kenya, une entreprise fournit des cours de maths et des programmes d'alphabétisation pour l'école primaire, tandis qu'en Ouganda, la plateforme BrainShare propose un tutorat et encourage l'apprentissage conjoint entre élèves et enseignants. Et pour citer un dernier exemple, Talking Books au Nigeria est le premier marché en ligne pour les livres audio en Afrique. Comme on peut le voir, le secteur des technologies de l'information et de la communication est en plein essor en Afrique subsaharienne et il se concentre sur le domaine de l'éducation. L'EdTech, comme on l'appelle, fait bouillonner la créativité des jeunes en Afrique qui créent des start-up pour trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Et ceux qui ont du succès ont le potentiel d'exporter leurs plateformes dans d'autres pays d'Afrique ou du monde. Mais tous ne réussissent pas à se maintenir après avoir lancé leur start-up car il y a de nombreux obstacles, souligne encore Rebecca Strohmeier.
Le principal obstacle, c'est le manque d'infrastructures comme Internet et l'électricité. Mais là aussi, il y a de grandes différences entre les pays. Le Kenya, par exemple, est bien connecté, le Tchad l'est moins. D'autres obstacles sont les investissements et les prêts des banques qui sont difficiles à obtenir ou liés à des intérêts élevés d'environ 18% en Afrique.
À cela s'ajoute le fait que certains gouvernements ne sont pas prêts à fournir des subventions. Et puis, il ne suffit pas d'une idée et d'un soutien financier pour réussir. Le marketing, le modèle économique et surtout l'utilité sont des facteurs essentiels pour le succès des entreprises sur le long terme. Tous ces obstacles, Aaron Agey et Massan Batiam les ont surmontés, mais il y en a un bien plus coriace encore.
Le principal problème est de changer le comportement des enseignants. La plupart de la vieille génération ne connaissent rien aux nouvelles technologies. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous leur montrons que ces outils leur facilitent la vie, alors ils sont dans le coup.
La pandémie de coronavirus qui a contraint de nombreux établissements à fermer leurs portes pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est peut-être une chance pour les enseignants de faire découvrir de nouvelles formes d'apprentissage à leurs élèves. Allemagne, deuxième partie. Il y a quelques semaines encore, les médias européens rendaient compte chaque jour ou presque de la nouvelle vague d'arrivée de réfugiés en Grèce après l'ouverture des frontières par la Turquie. Ensuite, le coronavirus est arrivé et les réfugiés ont tout simplement disparu des radars. Le départ des journalistes a bien sûr joué un rôle dans ce repli médiatique. Pourtant, les conditions de vie déjà difficiles de ces dizaines de milliers de personnes sont maintenant menacées par le Covid-19 qui risque de provoquer une catastrophe sanitaire, selon un député allemand. Le confinement et la distanciation sociale sont des consignes quasi impossibles à appliquer dans les camps surpeuplés et insalubres. À une heure de route d'Athènes, la petite ville de Lavrio abrite deux camps de réfugiés kurdes. Ce sont des camps autogérés car abandonnés de tous. Tributaires de l'aide internationale, leurs habitants reversent néanmoins une partie de cette aide aux Lavriotes pour les remercier de leur accueil. En décembre dernier, une grande fête a été organisée sur la place publique. Aujourd'hui, le coronavirus a stoppé le dernier convoi en cours, mais les bénévoles solidaires continuent leur soutien. Un reportage de notre correspondant en Grèce, Thomas Iacobi.
En plein centre-ville, à quelques pas de la mairie, les bonnes odeurs d'une cuisine épicée remplissent l'air. Poulet, poivron, soupe de lentilles rouges, pâtes aux légumes, petits gâteaux, les Kurdes du camp de Lavrio, femmes et hommes, s'affairent à offrir des rations aux plus pauvres. Lavrio est la ville la plus touchée par la crise économique de ces 10 dernières années en Grèce. Pourtant, elle accueille les réfugiés kurdes. Eux, aujourd'hui, veulent lui prouver leur reconnaissance.
Venez, venez vous servir, c'est pour tout le monde. C'est offert par les Kurdes en solidarité.
Toute la nuit, les femmes et les hommes du camp ont cuisiné une partie des vivres emmenés pour eux ces derniers mois par des camions de plusieurs tonnes depuis la France en signe de solidarité. Une solidarité qui vient de s'interrompre par le coronavirus. Jacques Leleu, syndicaliste la soixantaine, retraité français et cheville ouvrière de cette solidarité, s'est retrouvé coincé en Grèce. Il nous explique par téléphone comment il compte continuer son action.
Certes, l'aide qui correspond au camion, elle est provisoirement arrêtée, et je pense pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tant qu'on ne pourra pas traverser l'Italie. Mais on a de l'argent, les différentes associations qui composent le convoi solidaire, je pense aux Italiens, et les associations françaises aussi nous transfèrent de l'argent. Donc régulièrement, je retrouve, malgré le confinement, dans Athènes, sur un parking, on respecte les distances de 4-5 mètres et on dépose dans le coffre des voitures des enveloppes d'argent qui leur permet de faire des courses importantes. Là, on est à plus d'une tonne de nourriture et on est à plusieurs centaines de litres d'eau de Javel, de savon, etc. Donc on va continuer tant qu'on aura des versements.
Si la cohabitation avec les Grecs de cette ville se passe aussi bien, c'est parce que Nézré, grand gaillard d'une quarantaine d'années, veille au grain. Entre deux assiettes servies, assailli par les enfants qui veulent jouer avec lui, il explique le fonctionnement de ce camp autogéré.
Il y a des règles. Par exemple, les gens peuvent boire à l'extérieur, mais ne peuvent pas ramener des bouteilles de bière, etc., boire ici, parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité. Au niveau des horaires, 7h du matin à 1h de nuit. Ça veut dire qu'avant 7h, personne ne peut sortir. Après 1h, personne ne peut entrer. Ce n'est pas un régime dictatorial, donc tout le monde a des droits. Mais ici, les gens traînent à l'extérieur, boivent, cassent ou volent, ça ne va pas aider le camp. Ça ne va pas aider notre camp. Et d'autre chose, il y a le point de vue de sécurité aussi. Nous, on ne peut pas assumer la responsabilité que toi, tu es un homme politique, tu es un élu kurde, et il est 3h du matin, tu es à côté de la mer, et les services secrets turcs ont fait une opération à l'encontre de toi, et on va te protéger. Là, on ne peut pas assumer ça.
L'hôpital municipal de Lavrio est le seul endroit où les Kurdes peuvent être soignés malgré les directives contraires du gouvernement. Aussi, ils ont décidé en décembre dernier, en procession à travers la ville, d'offrir à l'hôpital de Lavrio tout le matériel médical qui leur a été envoyé. Des lits, des fauteuils roulants, des tables à penser, des médicaments, des déambulateurs et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, l'action des solidaires comme Jacques est surtout concentrée sur le coronavirus.
Nous avons mis sur pied 8 mesures de prévention et de protection à appliquer durant le confinement. Nous avons formé les amis kurdes à l'utilisation concrète de ces mesures, lavage des mains, nettoyage régulier du camp. Il y a une équipe de 9 personnes qui ont été nommées au sein du camp et qui, toutes les 2 heures, avec des gants, avec une solution d'eau de Javel et d'eau, nettoient l'intégralité des parties communes, c'est-à-dire les rambardes d'escalier, les poignées de porte, les toilettes, les cuisines, etc. etc.
Emi Koutsopoulou, médecin grec du Centre médical solidaire de Néa Philadelphia, qui avait travaillé à cette opération de solidarité unique, redoute désormais que le coronavirus fasse une hécatombe chez les réfugiés. Elle se sent impuissante.
Hélas, il n'y a jusqu'à présent aucune mesure pour les réfugiés. Au lieu de leur offrir, comme à tout citoyen grec, la possibilité de rester chez eux, dans un endroit sûr, tout en ayant accès libre aux services de santé publique, l'État les fait rester agglutinés dans des camps, dans lesquels les conditions de vie représentent un danger énorme, tant pour leur santé que celle des autres citoyens. En ce moment, les réfugiés sont complètement abandonnés à leur sort, et ce, dans les pires conditions de vie.
Les mesures de confinement prises très tôt en Grèce ont retardé l'apparition du coronavirus au sein de la population locale. Pour autant, rien n'est prévu pour les dizaines de milliers de demandeurs d'asile, plus de 70 000 à l'heure actuelle, dont les 2 camps des Kurdes abandonnés de tous, et les environ 40 000 exilés dans les camps insalubres et surpeuplés des îles. 121 organisations ont demandé leur évacuation sur le continent, mais personne en Grèce ne parle des Kurdes de Lavrio oubliés de tous.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Thomas Jacobi pour son reportage et merci à Martina Jwikowski pour le sujet sur l'e-learning. Merci aussi à toutes et à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous les mains et restez chez vous. Tchuss !